Bien, bonjour. Eh bien, nous allons nous pencher sur les Écritures aujourd'hui au sujet de l'eschatologie. Parce que, mon Dieu, je vais écouter sur YouTube des trucs, c'est invraisemblable le nombre de trucs qui sont racontés. On disait pas ces choses dans les années 60 quand je me suis converti. C'était beaucoup plus clair, biblique. Et je voudrais revenir sur ces choses-là, afin que vous qui suivez Révélation Bible, vous sachiez les choses toutes simples, mais claires, nettes, impeccables d'après les Écritures. On sait tous, du moins dans les milieux évangéliques, qu'on est arrivé à la fin du temps de la véritable Église sur Terre. Parce que nous savons que quand nous serons partis, eh bien là, véritablement, il y aura la mondialisation, la fin du temps des nations. Hein, déjà, ça s'organise. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça s'organise. Alors, on sait déjà que beaucoup de signes avant-coureurs ont été accomplis. Et Jésus a parlé de plusieurs signes qui devaient s'accomplir sur Terre parmi donc les trois grands groupes de personnes qui habitent sur cette terre. Tout d'abord les Juifs, puisque bon, Jésus, le salut vient des Juifs, c'est les Juifs d'abord dans la Bible, puis ensuite les nations du monde entier, que Jésus appelle les Grecs, puisque voilà. Et puis pour son Église. Alors je vais faire une lecture dans Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21, verset 28. Alors je lis. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Alors, de quels événements parle-t-il? Il dit quand ça commencera. Relevez votre tête. Quand ces signes ou événements commenceront à arriver, relevez la tête, prenez courage, c'est-à-dire ne paniquez pas, réfléchissez posément et prenez courage, bientôt vous allez être délivrés. Frères et sœurs, à notre époque, ces choses ne font pas que commencer à arriver. On est en plein dedans. Jésus disait, il y a 2000 ans, il disait quand ces choses commenceront à arriver. Mais il y a longtemps qu'elles ont commencé à arriver. Aujourd'hui, la plupart sont arrivées. C'est déjà du passé. C'est déjà du passé. Pour la plus grande partie des prédictions données par Jésus, par les prophètes, c'est déjà du passé. Et ça doit nous faire prendre la mesure, ça doit nous faire prendre conscience que nous sommes proches du retour du Seigneur Jésus-Christ. Hein, et que c'est sérieux, qu'il ne faut pas jouer avec ça. Je vais vous faire une lecture dans 1 Corinthiens 10, 32. Je vais prier d'abord. Seigneur, je te prie pour que mes frères et sœurs comprennent et ne soient pas troublés. Que tout ce qu'ils ont pu entendre, de tous ces mélanges ou de toutes ces histoires, qu'ils puissent entendre simplement la simple parole de Dieu et la comprendre, qu'ils ne soient pas troublés, mais qu'ils soient éclairés par la puissance de ton esprit. Amen. 1 Corinthiens 10, 32. Je vous lis dans la parole vivante, vous savez que j'aime bien l'ancienne version, la première version de la parole vivante de notre frère Alfred Kuhn, j'aime moins les nouvelles. Hein. 1 Corinthiens 10, 32. Il faut donc que rien dans votre comportement, il parle à des chrétiens, donc il nous parle à nous. Il faut donc que rien dans votre comportement ne soit un sujet de scandale ou une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. C'est d'après ces principes que j'agis moi-même, je m'efforce en toutes circonstances de m'adapter à tous les hommes en tenant compte de leurs opinions, de leurs désirs, de leurs intérêts. Je ne considère pas ce qui me serait agréable ou avantageux, mais je pense aux multitudes d'hommes perdus cherchant à les conduire au salut. Voilà, l'apôtre Paul, un homme très sage. Et vous voyez, il fait partie de ces trois grands groupes, les Juifs, les nations et l'Église. Et il faut, il dit que dans notre, il faut qu'il n'y ait rien dans notre comportement qui soit un sujet de scandale pour ces gens-là. Vous voyez, le souci du Saint-Esprit, c'est que nous tenions compte de ces trois groupes de personnes. On voit Jésus parler clairement des signes qui doivent se produire et qui se sont déjà presque tous produits chez les Juifs, dans les nations et dans son Église. Alors pour ce qui nous concerne, il nous dit maintenant, attention, faites attention dans votre comportement. Ne choquez pas les gens de ces trois groupes-là, les Juifs, les gens des nations et les gens de l'Église. Alors, pour ce qui concerne les signes au sujet de l'Église, eh bien, il est d'abord question d'apostasie. Et puis, de l'autre côté, du réveil de l'épouse, des vierges folles aussi, malheureusement. Alors, les chrétiens aiment beaucoup lire 2 Thessaloniciens, chapitre, je crois que c'est chapitre 2, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, ils aiment beaucoup ça, au verset 1, « En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, gna gna. » Ah, déjà, il y avait des gens un peu bizarres qui avaient des révélations, et qui, heureusement, ils n'avaient pas YouTube à cette époque-là. Maintenant, on a YouTube, on a toutes ces folies qui circulent. Mais les gens, ils aiment bien. Parce qu'il est question de l'enlèvement, notre rassemblement avec le Seigneur, et ça c'est merveilleux. Mais par contre, ils ne lisent pas trop jusqu'au bout ce que Paul dit, et Paul, ben justement, il parle là de l'apostasie, on va dire. On va dire jusqu'au verset 4. Il dit, donc, en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troublé par une révélation, par une parole ou une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Voilà, à l'époque, c'était le grand truc. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme trompeur qui vous donne des dates et puis qui se trompe et puis qui vous dise « Non, attendez », puis vous en donne une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis ça continue comme ça. C'est invraisemblable. Les gens n'ont plus de bon sens, ils se laissent ébranler dans leur bon sens. Il faut, alors il dit, que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Et en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et de nos rassemblements avec lui, auprès de lui, il faut d'abord que l'apostasie arrive. Et même l'homme du péché. On est loin de l'enseignement de certains. Hein? Alors, l'apostasie, le mot apostasie signifie renoncer. Alors, on trouve ce mot un peu partout dans la Bible, mais il n'est pas toujours sous le vocable apostasie. Par exemple, vous retrouvez dans Actes chapitre 21-21, vous savez, vous vous rappelez, c'est le passage où les apôtres exhortent Paul, parce que Paul arrive là, et puis ils lui disent, attention, faut que tu sois sage dans tes prédications, parce qu'il y en a certains qui font courir le bruit que tu aurais renoncé à la loi de Moïse, que tu aurais abandonné la loi de Moïse. Et dans le texte, le mot, c'est pas renoncer ou abandonner, c'est que tu aurais apostasié au sujet de la loi de Moïse, c'est-à-dire que tu aurais renoncé. Voilà le mot apostasie, c'est renoncer. Et Paul annonce dans 2 Thessaloniciens 2, 1, 4 que l'apostasie doit arriver avant l'enlèvement. Et c'est ce qu'on voit partout. C'est ce qu'on voit partout. Alors l'apostasie, bon, évidemment, on peut voir aussi tous ces trucs scandaleux qui se produisent dans les églises et tout, mais c'est pas ça l'apostasie. L'apostasie, c'est renoncer à l'enseignement qu'on trouve dans les Saintes Écritures. Sous prétexte qu'il n'y a que un ou deux textes qui parlent de cela, alors on n'en veut pas. Alors qu'on sait en lisant l'histoire de l'Église que ces pratiques ont été exercées pendant des siècles. Par exemple, le baptême pour les morts, jusqu'au IVe siècle, c'était pratiqué par les véritables chrétiens. Mais l'apostasie est arrivée, c'est-à-dire ils ont renoncé à ça, ils ont renoncé aussi au baptême correct, ils ont renoncé à leur pureté en allant se prosterner devant des idoles, ils ont abandonné la vérité au profit du mensonge, et cette apostasie, en fait, elle a déjà commencé au temps des apôtres, au travers de faux frères, et Paul, il était terrible, il les dénonçait, il disait les noms, le forgeron, là, Alexandre, tout, il donnait des noms. Moi, je suis gentil, je donne pas de noms. Mais des gens qui ont apostasié, chez nous, il y en a plein. Des gens qui ont entendu la vérité, et puis qui ont dit non, on n'en veut pas, on n'y croit pas, ça vient pas de Dieu et tout, et puis ils se sont donné toutes sortes de bonnes raisons. Des foules de docteurs qui donnent toutes sortes de bonnes raisons. Et l'apostasie, elle a commencé donc dès le début, et puis elle s'est fortifiée tout au long des siècles pour en arriver à ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde entier, et les chrétiens ont abandonné, renoncé, apostasié au sujet du message de Jésus, de sa puissance, voilà, c'est terrible. L'autre jour, je voyais sur YouTube un bonhomme qui disait « Moi, j'ai essayé d'imposer les mains aux aveugles, mais aucun n'a jamais retrouvé la vue. » Vous voyez bien que quand Jésus dit que on peut rendre la vue aux aveugles, ça veut dire que en évangélisant, eh bien, les gens qui ne voyaient rien de la lumière peuvent voir la lumière. Ils deviennent des gens guéris des ténèbres, et c'est ainsi que les aveugles retrouvent la vue. Mais jamais Jésus a dit que nous pouvons guérir les aveugles et les faire voir. Ça, c'est le diable, il fait ça. D'ailleurs, Jésus dit, ceux qui diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, Jésus leur dira, rire de moi, je vous ai jamais connu. Vous voyez comment ils apostasient? C'est incroyable. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Paul nous dit aussi que Jésus viendra chercher une épouse pure, sans tache, ni ride, ni chose semblable. Ça veut dire qu'il y a ceux qui apostasient, puis il y a les autres. Vous voyez? Il y a les autres. Donc, il y a bien deux églises, la fausse et la vraie. Et c'est pourquoi Jésus dit, sortez de la fosse, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à sa punition, à son châtiment et tout. Et vivre dans la vraie Église, la vraie Église, c'est celle qu'on trouve dans les Actes au chapitre 2, au chapitre 4. C'est le seul modèle biblique qu'on trouve. Bon, maintenant, vous voyez, c'est vous qui voyez. Alors, le réveil va être douloureux pour les vierges folles. Pour les apostats, pour ceux qui ont renoncé à l'enseignement tout simple de la Bible, qui l'ont interprété. Ah non, moi j'ai entendu, on était toute une série de pasteurs, on devait enseigner à d'autres, et puis il y en a un qui a prêché contre la vie communautaire en disant que les apôtres s'étaient trompés, la preuve c'est que Dieu leur a envoyé une famine, et que ceci et que cela. Puis après c'est moi qui devais prêcher, je dis, frère, je suis désolé de vous contredire, et j'ai montré par A plus B que non, la vie communautaire c'était exactement ce que Dieu avait voulu au départ, et que ce n'était pas qu'à Jérusalem que les gens vivaient dans des maisons, en communauté, et j'ai démontré ça par les Écritures. Vous pouvez trouver ça dans mes bouquins, dans Oracle, dans voilà. Mais les gens ont apostasié aujourd'hui les choses qui sont écrites. Quand il est dit il faut vivre de toute la parole de Dieu, non, on choisit, on dit non, ça c'est plus pour notre temps, les miracles c'est fini, la vie communautaire c'est fini, voilà, on est, voilà, enfin bon. Les vierges folles et les vierges sages vont donc se réveiller. Les folles, ça va être un réveil qui va être un peu douloureux, parce qu'elles n'auront pas l'huile, c'est-à-dire le Saint-Esprit avec la révélation pour l'heure, pour le moment. Ce seront des apostats, voilà. Ils aiment le Seigneur, mais ils sont apostats parce qu'ils ont renoncé aux Écritures. Et puis, ça sera glorieux pour les sages, ceux qui n'auront pas apostasié, mais qui auront cru et qui auront vécu ce que Dieu rétablit actuellement dans son Église, parce que c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Alors maintenant, il y a des prophéties aussi sur les nations. Alors on voit bien, on s'en rend compte, on a la télé, on voit tout ça, tout s'écroule dans les nations, même le climat, tout s'y met. Enfin bon, Jésus en a parlé, les apôtres en ont parlé, les prophètes en ont parlé, mais je pense que le plus grand message au sujet des nations, c'est celui du songe de Nebuchadnezzar que Daniel a interprété. Vous vous souvenez, le songe de la statue, hein? Et vous savez comment Daniel a donné l'interprétation du songe, vous l'avez lu, vous êtes des chrétiens, vous connaissez. Et puis, après le songe du roi, Daniel a encore reçu d'autres révélations plus profondes au sujet toujours de cette statue. Et ça lui a fait comprendre que dans les derniers temps, il y aurait une alliance en 10 puissances, une alliance faite entre 10 puissances en vue d'un gouvernement mondial. Et ces 10 puissances, ben, mes frères et sœurs, ça existe. Vous avez d'ailleurs, je vous ai mis sur Révélation Bible, vous avez comment on appelle ça, la carte du monde. Alors vous avez toutes les contrées, n'est-ce pas, du Commonwealth, c'est-à-dire en gros, hein, les États-Unis, l'Europe, le Nord-Afrique, le sud de l'Afrique. Enfin, vous avez l'image sur Révélation Bible, vous avez qu'à regarder, vous allez voir, l'ONU a partagé le monde en 10, les 10 orteils de la statue de Daniel. Daniel, il a eu donc ces révélations-là, et il a vu, en fin de compte, une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main humaine et qui a frappé la statue, et puis elle a été mise en pièces, et il a vu que cette pierre, eh bien, c'était le royaume de Dieu qui grandissait, qui s'établissait sur toute la terre, donc le royaume de Dieu qui s'établit sur terre. Alors, nous ne sommes plus à l'époque de la tête d'or de la statue, de la vision, c'est-à-dire nous ne sommes plus à l'époque de Babylone, c'est fini ça, nous ne sommes plus à l'époque des épaules et de la poitrine de la statue, qui représentent donc l'empire perse et l'empire mède, les deux empires. Nous ne sommes plus non plus à l'époque de la Grèce, ni à l'époque de l'empire romain, mais nous sommes à l'époque des 10 orteils de la statue. Et nous savons que, comme je vous l'ai dit, l'ONU, en 2009, a divisé le monde en 10 régions pour contrôler le gouvernement mondial. Ils sont en train de l'établir. Quand je me rappelle dans les années 68, 69, 70, quand on disait ça aux gens, ils nous riaient au nez. Un gouvernement mondial? Non mais vous rêvez, c'est impensable. Et puis maintenant, celui qui ne croit pas qu'il va y avoir un gouvernement mondial, il passe pour un idiot. Nous avions raison, les prophéties, nous savions les comprendre et nous disions aux gens, et voilà. Et puis alors, il y a le troisième groupe, le groupe d'Israël. Là, presque toutes les prophéties sont aussi accomplies. Israël, vous le savez, est redevenu une nation. Ça n'a pas été facile, ça n'est toujours pas facile, parce que c'est avec des ossements, tout ça s'est été remis en place, hein, comme dans la vision biblique. Et puis les muscles, les chairs, et tout ça, ça se passe dans le sang. Et l'esprit n'a pas encore soufflé sur eux. C'est un corps, ça existe, il existe, mais il n'y a pas encore l'Esprit de Dieu qui est là, et c'est pourquoi Israël commet aussi des choses qui ne sont pas très très louables. Mais enfin, c'est l'histoire qui est en train de se produire devant nos yeux. Nous sommes proches de l'accomplissement total de la prophétie de Jésus qu'on trouve dans Luc au chapitre 21-24. Je vais vous la trouver, Luc 21-24. Où Jésus dit, voyons où est-ce que c'est, il dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, donc les Juifs, ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations, ça c'est fait, et Jérusalem sera piétinée par les non-Juifs, ça c'est fait, jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Voilà, il y a une période qui est accordée aux nations, elle doit prendre fin. On y est. Il y a très peu de choses qui doivent encore s'accomplir pour que ça arrive. Qu'est-ce qui manque avant que cette alliance de 7 ans puisse se faire, une alliance faite par l'Antichrist, n'est-ce pas, et qui doit être brisée au milieu des 3 ans et demi? Eh bien, je vois quelque chose de très grave qui doit arriver, d'extrêmement grave même, qui arrivera pour obliger les nations à faire la paix. Dans Ézéchiel 38, On peut lire une prophétie, vous la lirez, 38 et 39. Vous lirez ça tranquillement chez vous. Vous allez voir, il y a plein de pays qui sont nommés. Il y a l'Iran, à l'époque ça s'appelait la Perse. Vous avez Togarma, à l'époque ça se disait comme ça, maintenant ça se dit Turquie. Et puis d'autres nations, bon, voilà, ils vont s'allier avec une grande puissance qui se situe au septentrion. Ah, c'est septentrion par rapport donc à Israël. Septentrion, ça signifie l'extrémité du nord. Alors l'extrémité du nord par rapport à Israël, vous prenez n'importe quelle carte, et puis vous allez voir que c'est la Russie. Donc la Russie va s'allier avec des nations, et en fait, ben, ils n'auront pas le choix. Ils attaqueront Israël parce que c'est Dieu qui les c'est Dieu qui les entraînera à le faire. Vous lirez ça dans Ézéchiel 38, 4, 8. Vous allez dire, alors pourquoi Dieu fait ça? Ouais, Dieu fait ça. Voilà, c'est comme ça. C'est comme avec Pharaon. Dieu a endurci son cœur pour une raison. Voilà. On n'a pas à discuter au sujet de ce que Dieu fait. Hein. Et là, Dieu lui-même va intervenir. Vous lirez ça dans Ézéchiel 38, 16, 23. Il y aura des fléaux naturels épouvantables, les gens vont mourir, ça va être épouvantable. Dieu va convoquer les oiseaux, les charognards, tout ça pour venir bouffer les cadavres, boire le sang. Enfin, vous lirez ça dans Ézéchiel 38-39. C'est ça qui va forcer les nations à faire une alliance, c'est-à-dire ils écouteront l'homme providentiel, l'Antichrist, et ils feront une alliance pour 7 ans. Voilà ce qui va arriver prochainement. Et Dieu dit que le monde entier saura que j'existe et que je suis intervenu. Mais ils se tromperont, ils prendront l'Antichrist pour le Christ. C'est ça le problème. Enfin, c'est pas le problème, ça doit arriver, c'est annoncé, nous, ben voilà, on le sait. On le sait, on doit en avoir la certitude, et puis on doit aussi le dire autour de nous. Et là, le monde entier réclamera donc un traité de paix et de sécurité, parce que tellement cette guerre contre Israël sera épouvantable, ça sera tellement horrible que ils demanderont un traité de... Et les 10 parties du monde divisées par l'ONU en 2009, ce sont les 10 orteils, et les 10 orteils, ils sont séparés. Il y en a 5 sur une jambe, 5 sur l'autre. Et alors, ce sont les 5 orteils de l'Ouest par rapport à Israël, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique du Nord. Avec l'Amérique, vous avez aussi, l'Amérique sera alliée avec l'Australie. Mais ça fait 6, ça fait 5 puissances de l'Ouest, et puis ces 5 puissances-là feront une alliance avec les 5 parties de l'Est, c'est-à-dire l'Océanie, l'Asie de l'Est, l'Asie de l'Ouest, la Chine et la Russie, et le monde arabe, la Chine et Russie, ça fait partie. Vous regarderez la carte, vous verrez comment, ça c'est officiel, c'est ce que l'ONU a décidé, les 10 orteils de la statue de Daniel, qui font donc ce fameux gouvernement mondial dirigé par l'Antichrist. Alors voilà. Mais nous ne serons plus là, enfin nous, ceux qui ont été fidèles, ceux qui seront rentrés dans le rétablissement de toute chose, ceux qui n'auront pas apostasié, ceux qui auront entendu la vérité et qui l'auront mise en pratique, voilà, ceux qui auront connu, qui auront entendu et qui auront pratiqué les choses, qui ne s'en seront pas moqués, qui n'auront pas traité les serviteurs de Dieu comme ils sont traités à l'heure actuelle. Ceux qui disent la vérité sont vraiment maltraités, et voilà, j'en sais quelque chose. Alors vous savez, moi je suis toujours étonné. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je disais, mais comment ça se fait que les pasteurs des Assemblées de Dieu de France osent critiquer comme ça Osborne, alors qu'il est exaucé par Dieu, qu'il a des miracles? Alors il me dit, oui, mais c'est miracle, tu sais, franchement, est-ce que ça vient de Dieu quand même et tout. Bon. Puis t'as vu sa moustache. Enfin. Ben, ils osaient, n'est-ce pas, critiquer cet homme de Dieu. J'étais scandalisé par ça. Et je trouve tellement étrange que des gens critiquent des serviteurs de Dieu qui sont confirmés dans ce qu'ils disent par des signes, des prodiges, des miracles. Si j'étais un serviteur de Dieu corrompu, voleur, menteur, je sais pas, pourri, quoi, ben encore, je comprendrais qu'on critique. Non, ceux-là, on ne les critique pas, hein, les pourris. Ah, ceux-là, ils remplissent des églises immenses, et puis... C'est incroyable. C'est incroyable. C'est l'apostasie, mes frères et sœurs. C'est l'apostasie. On est dedans, mais alors... C'est pourquoi il faut revenir aux enseignements des Saintes Écritures. Réécouter. J'ai des amis qui m'écrivent, des frères et sœurs qui me disent « De temps en temps, on reprend une de vos vieilles prédications d'il y a quelques années en arrière. » Et on aime bien réécouter. Il faut rafraîchir votre cœur avec la parole de Dieu, pas simplement dire « Ah oui, c'était bien », puis on oublie. Non, non, ce sont des choses importantes et il faut les méditer, il faut y penser, il faut être sérieux. Voilà, sinon, ben, on risque de s'endormir apostat. Voilà. Alors, veillez, priez. Et puis, continuez à mettre en pratique ce que vous avez compris des Saintes Écritures. Et ainsi, vous ne serez pas des gens apostats et vous partirez dans l'enlèvement. Mais rappelez-vous, hein, avant l'enlèvement, c'est l'apostasie. Alors, demandez-vous, est-ce que je suis un apostat ou pas? Est-ce que j'ai renoncé à certaines choses? Est-ce que j'ai abandonné certains enseignements bibliques? Où est-ce que j'en suis? Qui suis-je? Voilà, mes frères et sœurs, que Dieu vous garde, que Dieu vous aide et que vous puissiez faire votre chemin avec dans la fidélité. Merci Seigneur Jésus pour ce court message. Je te prie que tu bénisses mes frères et sœurs et que tu les aides à vivre loin de tout cet esprit d'apostasie et qu'ils puissent être agréables. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Au revoir, soyez bénis. Au revoir.